suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir. Nous sommes toujours très heureux car nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre alors à partir de 11h sur votre radio. Et c'est l'émission Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui alors au mardi 24 septembre 2024. Il sommes 11h sur votre radio. Vous comprenez que c'est le deuxième numéro de l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'Atévi assure la mise en onde. Jérôme Akouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Améro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Soukoudé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtigou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec mon confrère journaliste en studio avec moi, Adam Adronou. Bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs et auditeurs de la radio 93.5 Canal FM.
Bien démarré la semaine.
Ça va, par la grâce de Dieu.
Dieu merci, par la grâce de Dieu. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. L'autre que nous n'avons pas vu le mardi dernier, c'est bien Justin Anani. Justin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toutes et à tous ceux-là qui sont à l'écoute. Et bonjour également à chers invités.
J'espère que tu vas bien.
Par la grande forme, Dieu merci.
Dieu merci, c'est l'essentiel. Rendons grâce toujours à Dieu quand nous avons le souffle de vie. Et je sais que bon nombre alors de ceux qui nous écoutent aussi ont vraiment ce souffle de vie et pour nous suivre. Et nous faisons un clin d'œil et même surtout à ceux qui sont actuellement sur les lits d'hôpitaux et qui nous suivent. Et nous faisons un clin d'œil à ces personnes. Alors, nous sommes au mardi et vous savez très bien que mardi, ça concorde bien avec la chronique culture ou la chronique littéraire. Avec Claude Assiobotis. Claude, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
C'est pas le soleil, mais on peut se contenter de la lune.
Dieu merci. Ce qui est sûr, la lune est là. Et comme la lune est là, là, justement, on peut se contenter de cette lune en espérant tout simplement que le soleil aussi viendra.
Oui.
C'est ça l'essentiel.
Le soleil ne se lève jamais dans la lune. Sauf lorsqu'on est au pôle.
Ah.
Voilà.
D'accord. Ce qui est sûr, j'ai connu quand même un restaurant appelé Soleil de Minuit.
Oui, c'est ça, Soleil de Minuit, ça existe.
Ah, ça existe, non?
Au pôle, il y a le Soleil de Minuit.
D'accord.
Ouais.
Mais ce qui est sûr, quand on parle de Soleil de Minuit, tandis que le soleil ne se lève jamais ou ne se fait jamais voir à minuit.
Oui, ça veut dire que pendant 6 mois, au pôle, il n'y a que le soleil. Même à minuit, il y a le soleil.
Il y a le soleil.
Ouais.
Aline Legrand, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Chers confrères, auditrices, auditeurs de la BN Radio, merci à l'invité.
Merci beaucoup.
Je vous porte bien, merveille.
Dieu merci. Alors Claude, c'est vrai que je rappelle tout simplement que vous êtes conseiller littéraire, vous êtes chroniqueur littéraire, vous êtes conseiller également, enfin vous êtes aussi écrivain et critique littéraire aussi, je n'oublie pas, critique littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un genre littéraire que vous avez survolé dans vos explications et la fois passée, et selon vous, ce genre littéraire sacrifié dans la programmation des œuvres scolaires dans les lycées et collèges, c'est bien la poésie. Alors, simple question, qu'est-ce que c'est la poésie?
Oui, sacrifié dans l'introduction des nouveaux programmes, je précise.
Tout à fait.
Oui, c'est que c'est que la poésie. La poésie, c'est tout simplement le contraire de la prose. Là où nous sommes, nous nous exprimons en prose. Et la prose demande simplement des exigences, la clarté, la netteté pour la communication. Alors, la poésie ajoute quelque chose de plus, hein, qui est le frémissement. Hein. Il faut faire frémir l'interlocuteur. C'est ça la poésie. Il ne suffit pas qu'il comprenne, mais il faut le faire frémir. Et si c'est un lecteur, il doit frémir. C'est ça la poésie. Hein. Attention. Frémis par l'utilisation des mots. Parce qu'il y a autre chose qui fait frémir dans une histoire. Par exemple, les coups de théâtre, ce que vous voulez. Mais c'est l'usage des mots qui fait frémir le lecteur ou l'auditeur. Mmh.
Alors, Claude, pourquoi lorsque quelqu'un écrit un vers, on l'appelle un poète?
Enfin, en réalité, c'est un abus du langage. Hein? Parce que la poésie, c'est un genre transversal. Et je peux vous expliquer un peu. C'est qu'au début, la poésie, c'est le rythme. Hein? On se sert du rythme pour exprimer les sentiments et les idées. C'est comme dans la musique classique. Et la poésie classique a fait la même chose. Si vous prenez les poèmes comme Victor Hugo, je vous donne un poème. Demain, dès l'homme à l'homme, blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Vous voyez ça? C'est clair, il n'y a rien de sorcier, mais c'est que il y a un rythme caché dedans. Et que seuls les oreilles averties peuvent percevoir. Conséquence, ça crée une confusion dans la poésie. Les gens croient aujourd'hui que on peut dire les choses clairement, nettement. Il suffit de mettre des rimes à la fin. On est poète. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a d'autres secrets cachés dans la chose que les classiques utilisaient. Et aujourd'hui la poésie moderne a abandonné. Le rythme, l'enjambement, tout ce que vous voulez, bon, on ne va pas revenir sur ces choses techniques-là.
D'accord. Oui, mais écoute, quelles sont les vraies qualités d'un poète? Et aussi, si c'est possible, si vous pouvez citer aussi des exemples togolais, ça nous fera vraiment plaisir.
Oui, comme c'est la littérature togolaise, serait notre prochain atterrissage, on va y entrer petit à petit aussi. C'est pourquoi, pour ce sujet, sur cette question, je préfère procéder par induction. Induction, à la fin, nous allons dégager. Et nous allons tous dégager des conclusions. Hein? Je serai plus illustratif. Alors, je donne l'exemple de Kamara Lai, qui dans son livre, je crois l'enfant noir, hein, dit je m'amuse pas. Et il aurait pu écrire, si alors suspendant un instant ma marche, je levais le regard sur la longue file de moissonneurs. Il est en train de décrire les moissonneurs, ce qui moissonne, une scène de moisson. Il décrit ça. Si alors, suspendant un instant ma marche, je levais le regard sur la longue file de moissonneurs, j'étais délicieusement frappé et ravi par l'immense et l'infinie douceur qu'il promenait autour d'eux. Ça, c'est la prose. Il n'a pas écrit comme ça. Là, je donne l'exemple d'un roman. Hein, d'un roman. Je ne parle pas de vers, je parle de roman. Mais Kamara n'a pas écrit ça. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pour faire frémir le lecteur, il met « Si alors, suspendant un instant en marche, je levais le regard sur le moissonneur, la longue file de moissonneur, j'étais frappé, délicieusement ravi par la douceur, l'immense et l'infinie douceur qu'il promenait par intervalle autour d'eux. » N'avez pas me dit que les deux versions disent la même chose.
Non.
Vous voyez, la seconde version, c'est ça qui fait frémir. Un autre exemple, là, je vais dans le théâtre togolais. Hein, le Samuel Wilsy, c'est un togolais, dans sa pièce, hein, et j'économise le nom, dans sa pièce, je suis en train d'oublier un peu, et il décrit une scène érotique. Et cette érotique d'amour, voilà ce qu'il dit. C'est une femme qui parle. Ça, c'est un pied de théâtre. Hein. Je ne parle pas de vers, pied de théâtre. Il écrit, c'est la femme qui dit, j'avais 16 ans et j'étais belle. J'aimais Jeannot, son beau corps en virgule. C'est mes baladeuses qui savaient si bien jouer à l'archéologue. J'ai cru qu'elle se faisait à l'horizontale, les yeux vers le haut. Mais recambré était un cheval de feu. Mais cette scène qu'il décrit là, sans dire la chose d'une façon nette, mais qu'on comprend très bien qu'on saisit et qu'il faut finir. Et je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est le vers maintenant. Et je vous parle de. Et c'est un poème intitulé. incantation de Dieu donné comme ça, qui est en train de jeter des incantations là, au dictateur, elle est sabotée aux dictatures. Quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'il écrit? Bisango, il invente des mots. Bisango, Kango, Dabingo, Kalongo, Simango, Sabingo. Le sang coule à gogo, le sang de mes frères que l'on sacrifie à. Le sang que l'on sacrifie à la douleur. Est-ce que vous suivez?
Oui, mais.
Voilà.
Je
vais donner un petit dernier exemple.
Tout à fait.
On peut s'arrêter là. Et je vous cite Ketilina Dodo, la Ketilina Dodo, qui est en train de décrire la communication par le visage. Elle écrit la chose suivante. C'est une Togolaise aussi. Il est des regards foulards suspendus au visage, tels des accessoires. Il est des regards placards, fermés de l'intérieur, sans voix et sans issue. Il est des regards d'art qui plantent dans la tête leur pointe venimeuse, etc., etc., etc.
D'accord.
Conclusion, la poésie utilise les sons pour exprimer les idées et les sentiments. La poésie utilise... C'est une façon de détourner les mots de leur sens ordinaire, leur rendre une nouveauté, une puissance pour exprimer aussi les idées et les sentiments. Voilà.
Voilà. Claude, c'est vrai que dans la musique aujourd'hui, on parle plus également du slam. Le slam qui s'assimile un tout petit peu à la poésie. Est-ce qu'il y a une différence?
Non, disons que le slam, c'est la poésie en live, c'est tout.
C'est la poésie en live.
Est-ce que moi, qu'on sait souvent aux poètes aujourd'hui, parce qu'on ne lit plus la poésie, ça ne se lit pas. Ce que je leur conseille, c'est d'envoyer des récitals de poésie. Hein, ça se vit plus, c'est intéressant lorsqu'on écoute la poésie.
D'accord.
Voilà.
Claude, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Et vous savez très bien que c'est chaque mardi. Nous avons cette chronique littéraire, justement, que nous animons avec Claude Assiobotis, qui est écrivain et aussi critique littéraire, et aussi conseiller littéraire, bien sûr. Nous sommes rejoints par notre confrère Eric Pacoudjo-Josson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs du Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Bien, merci, ça va.
D'accord. Alors, nous parlions de la poésie, dans l'introduction même d'ailleurs de la poésie dans le cursus scolaire ou le système éducatif ou dans le programme de l'éducation tout de suite. Mais restons un peu dans l'éducation pour parler alors de ce sujet. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons, avec la rentrée scolaire, Adam, nous avons bien parlé alors de l'enseignement au niveau alors du primaire aussi, du collège. Mais cette fois-ci, je voudrais quand même qu'on aille un peu vers le supérieur, c'est-à-dire à l'université, et qu'on parle même d'ailleurs de formation, des sujets alors de formation alors dans nos universités, surtout les universités publiques. Alors finalement, quand on prend ces formations aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la formation est aussi adéquate, hein, par rapport surtout au marché de l'emploi?
Vous savez, depuis un moment, on peut le dire pour la simple et bonne raison que les autorités en Allemagne ont compris les enjeux d'enseignement supérieur adapté en réalité aux besoins de l'emploi, mais également envisagé aux défis auxquels le monde est attendu aujourd'hui. Donc c'est en ce sens que je dis avant, tel que cela se faisait où on formait pour former, vous finissez, vous êtes égal à vous-même, etc. Or, en réalité, lorsque vous remontez un peu les besoins, vous constatez qu'il y a des besoins qui manquent réellement. Et que lorsque on lance les appels, vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs ou de faire venir d'autres compétences pour réellement pouvoir à ces postes-là. Donc, depuis un moment, comme je le disais, ça a commencé par changer. Vous aurez dû constater que il y a eu l'introduction de nouvelles filières, également les conseils. C'est vrai que moi, je me porte un peu en faux compte le fait qu'on nous dit véritablement il y a la masse et que véritablement il faut orienter les enfants vers l'enseignement technique. Je me rappelle, c'était avec le ministre Audin en son temps, où il avait mené une campagne de sensibilisation encourageant les jeunes filles à emboîter les filières, en tout cas techniques, mais plus pratiques, notamment la filière F, la filière mécanique, etc. Lorsque la demande a pris, mais il était surpassé. Parce que sur le terrain, il n'y avait pas de structure pour accueillir tous ces filles-là qui étaient bien sensibilisées. Donc il a compris qu'en amont, il fallait faire un travail, faire en sorte que nous ayons, en tout cas, des établissements qui peuvent en réalité donc, occuper toutes ces jeunes filles-là. Donc je me dis, il y a un travail qui a commencé par se faire, en témoignant le fait qu'aujourd'hui vous allez constater qu'il y a des IFAD également, il y a d'autres également. Et filière, je parle du supérieur, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
Tout à
vous
fait.
Avez évoqué la question, l'introduction d'une nouvelle filière, justement liée à ce besoin-là qui est sur le terrain, et qu'on sent véritablement que nous avons la masse. Mais en réalité, lorsque nous prenons ces profils-là, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des profils qui puissent donc emboîter ces filières-là, mais c'est justement parce que les opportunités ne s'y prêtent pas. Donc le gouvernement a compris, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puisque quelque part également, il faut l'apprécier à juste titre, nous ne disons pas assez, puisque lorsque vous prenez le gouvernement, il y a également ce mécanisme de boost qui a pris de l'envol. Pour ceux qui ont atteint un niveau d'excellence donné, il y a cette boost-là qui s'octroie. En témoigne le fait que, depuis l'arrivée du nouveau ministre de l'enseignement supérieur, pour voir clair là-dedans, il a fait en sorte qu'on puisse réellement reprendre en réellement pour savoir qui fait quoi et où. Donc, vous voyez, lorsque nous prenons toute sommation faite, je pense que ça a été compris parce qu'aujourd'hui, il faut orienter les ressources vers les besoins et justement liés, en tout cas, aux défis du moment, mais également aux défis à venir.
D'accord. Je sais, est-ce que vous avez aussi l'impression, puisque aujourd'hui, le reproche qui a été toujours fait à l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a des cadres qui sortent et qui sont formés, des étudiants qui sont formés, mais par rapport surtout au marché de l'emploi, il y a de l'inadéquation entre la formation et aussi le marché de l'emploi, ce qui fait que finalement, on sort formé, mais on se cherche.
Oui, effectivement, parce que la plupart du temps, on a constaté que après avoir sorti des universités ou avoir des diplômes.
Là, je vais devoir alors te couper, puisqu'il semble que ton micro fait un peu de bruit. Rapidement, nous allons demander à Thomas de nous aider pour que vous arriviez justement à donner votre point de vue sur la question. Oui,
je disais tantôt que c'est un problème qui est réel. Le constat est établi, ça fait des années. Et lorsque les étudiants, les cadres sortent des universités, le marché de l'emploi est difficile. Peut-être l'intégration, ça pose véritablement un véritable problème. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il faut aller au-delà. Et d'où l'idée qui est sortie dans la feuille de la feuille gouvernementale à travers des
feuilles de route.
Feuilles de route, bien sûr, à travers des projets. Et progressivement, on constate que le curriculum qui est enseigné aujourd'hui par rapport à ce qui se donnait comme formation de par le passé est différent. Donc, si à partir de ce moment-là, le constat est fait que c'est vraiment différent et qu'on arrive à avoir aujourd'hui la formation dans plusieurs domaines et que le gouvernement aussi, à travers ces projets, arrive à accompagner, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que beaucoup sortent de par le passé, mais n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Parce que la formation qui est donnée, la formation qui est requise, vis-à-vis de ce qu'on a sous la main, on n'arrive pas à intégrer le marché de l'emploi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'à travers ces projets-là qui sont annoncés, qui sont installés, ou les écoles qui sont créées pour former, ça permettra également d'avoir une idée sur les formations qui sont données, non seulement au niveau des universités publiques, mais au niveau également des universités privées. Mais en dehors de ça, il y a aussi deux écoles. Donc, si l'État arrive à faire des efforts peut-être pour envoyer des Togolais aller peut-être en Inde, en Chine ou à l'Occident pour se faire former et de revenir maintenant apporter une main forte par rapport à ce qui est sur le terrain aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais sauf que depuis toujours, on a eu à décrier cet état de fait et que voilà, quand vous mesurez le pourcentage aujourd'hui par rapport à la demande sur le terrain, l'écart est tellement silage.
Mais justement, l'État est silage. Alors, Alain Le Grand, est-ce que, déjà, oui, il y a et Justin qui a évoqué un fait, c'est-à-dire des étudiants qui peuvent aller à l'extérieur et se faire former, à l'extérieur et revenir servir le pays. Mais le problème aussi, c'est qu'après avoir reçu peut-être alors des bourses, et on va dans ces pays occidentaux pour se faire former, automatiquement, après avoir retrouvé la réalité de là, on préfère rester. Et c'est ce que nous appelons des fois alors des fuites de cerveau aussi.
Oui, merci Pascal. Je voudrais dire que vous posez une question, un problème hautement profond en termes de développement. Le développement d'un pays, tout comme nos petites familles, il y a une question de volonté. Et à partir de la volonté, il y a une question de moyens qu'il faut mettre suffisamment à la disposition avec toute la logistique nécessaire. Aujourd'hui, sur ce plateau, quelqu'un l'a déjà dit, et si on fait quelques années encore en arrière, je crois que la situation était encore criarde par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Pour vous dire que avant l'enseignement supérieur, tout est question de la fin du second cycle, la fin du second cycle, le lycée, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir plein de lycées scientifiques, parce que le constat le plus amer, c'est qu'on forme plus de littéraires. Et le gouvernement togolais a pris le poulet à bras le corps depuis ces dernières années, avec les lycées scientifiques qui se multiplient partout. Il y a les IFAD aussi, effectivement. Et là, vous allez constater qu'à chaque rentrée, à chaque fin d'année, il y a ces programmes d'encouragement à l'endroit de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons, que les meilleures moyennes aux différents examens, notamment au BPC, pour démarrer le lycée. Donc, pour dire que quelque chose a commencé. Et le souhait aujourd'hui, c'est que cette volonté puisse davantage se nourrir avec tous les moyens adéquats qu'on puisse mettre à côté. Vous l'avez dit, et je l'ai dit, c'est une question de volonté. Quand le gouvernement togolais arrive, par exemple, à octroyer des bourses à des compatriotes togolais, je pense que c'est pour aller se faire former et revenir servir son pays. Et aucun État dans ce monde ne peut se lever et vouloir que son pays reste en l'état où recule au jour le jour. Mais malheureusement, dans la pratique, comme vous l'avez dit, il y a ce que nous appelons les fuites de cerveau. Et c'est parce que, justement, quelque part, on n'a pas posé les jalons en amont comme cela se doit. Il y a de cela un certain nombre d'années, peut-être nous autres, on venait d'être nés. Et j'étais dans une rédaction de la place et on avait fait une enquête sur ce qui se faisait avant, dans les années 78-80. Les gens prenaient les bourses de l'État togolais qui allait en Occident, et quand vous faites former, vous êtes obligé de revenir servir le pays pendant un certain nombre d'années. Bon, au bout d'un certain nombre d'années, vous êtes libre de démissionner. Et je pense que c'est cette volonté-là qui doit pouvoir revenir en force. Et je crois, il y a quelques jours, je disais encore, quelque part, l'État togolais, par exemple, sur les domaines qu'on dit porteurs aujourd'hui. Il y a plein de secteurs, notamment le côté informatique, la probabilité, les histoires de prévoyance, de planification. Et l'État togolais a suffisamment des problèmes liés à ces secteurs-là. Et récemment, j'ai appris qu'un certain nombre d'étudiants étaient envoyés en Chine ou en Inde, je ne sais plus où.
Oui, en Inde.
Ouais, en 22. Voilà. Et qui sont partis, justement, pour aller se faire former dans le domaine de l'actuariat, notamment la probabilité, comme on le dit, pour ensuite pouvoir faire leur comeback et servir de manière adéquate le pays. C'est-à-dire que eux, quand ils arrivent, ils pourraient être considérés comme formateurs. Des formateurs, sinon avec le temps, formateurs des formateurs. Et je pense que cela doit être accentué de sorte que ces personnes doivent être canalisées. Il n'y a pas question que ces personnes restent dans ces pays où sont allées se faire former, ou carrément au bout du chemin, aller en Espagne ou en France, je ne sais pas où. Et donc c'est en cela que je dis, il y a une question de volonté. Quand je parle de volonté, quand les personnes viennent, il faudrait les mettre dans les conditions
tout à fait
adéquates. Et donc quand un statisticien qui trouve son boulot, tout comme les chirurgiens togolais qu'on connaît, qui sont nombreux en France, un peu partout, qui trouvent son boulot, qui a un plateau technique bien garni, avec un traitement salarial à la fin du mois énorme, et qui au même moment se retrouve peut-être sur le plan national, revient dans son pays avec toute la volonté de servir justement ses frères et son pays, et qui malheureusement se retrouve peut-être avec le statut de Bac plus 7, Bac plus 5, et qui se retrouve à 200 000 par exemple, parce qu'on vous dira c'est la fonction publique, ou à 300 000. Naturellement, avec l'ambiance tout autour d'ailleurs, parce que n'oubliez pas, il y a un peu l'aspect scientifique qu'on ignore par moment en mettant trop l'aspect politique. Et donc, ce monsieur préférerait rester dans un autre environnement où il est plus à l'aise pour travailler, pour exprimer en tout cas sa connaissance scientifique. D'accord. Alors que si au plan national, on ne le laisse pas, il n'a pas vraiment la main libre pour faire le travail, et naturellement, il risque de partir. Mais quoi qu'il arrive, dès lors que vous bénéficiez, pour finir, dès lors que vous bénéficiez des moyens de l'État pour se faire former, surtout encore à l'extérieur, vous êtes contraint de revenir pour pouvoir faire au moins ne serait-ce qu'un certain nombre d'années, 10 ans, par exemple, avant d'avoir la latitude de pouvoir démissionner. Je n'ai plus souvenance si vraiment il y a un test en la matière qui cadre, qui oblige vraiment de manière ça concerne des personnes comme ça.
Eric, c'est vrai que je suivais l'ancien ministre ou l'ex-ministre alors de l'enseignement supérieur. Entre-temps, je vais bien parler de Majesté Iou Ateba, professeur, et Majesté Iou Ateba, qui c'était sur un plateau de télévision, et il évoquait aussi les différentes réformes aujourd'hui qui sont entreprises dans les universités ou dans le supérieur, pour que aujourd'hui, quand des jeunes sortent ou des étudiants sortent alors de ces universités, que leur formation réponde concrètement alors au marché de l'emploi. Alors finalement, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé ou bien qui change avec ces réformes?
Pascal, je vais peut-être vous décevoir, parce que pour moi, il ne suffit pas de créer des filières pour demander aux jeunes d'y aller, de se faire former et de dire qu'ils sont prêts pour travailler. Il faut une formation théorique et pratique avant que quelqu'un ne soit prêt à exercer dans le domaine où il a étudié. Et je disais, je crois la semaine dernière ici, que quand vous allez ailleurs, ce qui se passe au-delà de la formation théorique, déjà en première année, on vous subordonne à un stage obligatoire. Ça veut dire que au même moment que vous apprenez, au même moment que vous avez la formation théorique, vous commencez déjà par exercer dans la pratique pour jauger votre niveau d'études. Et ça, c'est ça qui est important. Moi, je dis, si on estime qu'il y a des besoins sur le terrain, il y a de nouveaux emplois qui sont créés à travers les entreprises, etc., il faut forcément que lorsque les apprenants sont sur leur lieu d'études, qu'à la fin de l'année théorique, qu'ils arrivent à aller pratiquer ce qu'ils ont appris. Ce n'est que de cette manière qu'il y aura forcément une adéquation formation-emploi. Et je voudrais dire, et Ali Le Grand donnait l'exemple de jeunes qui sont allés se faire former en Inde, qui vont devenir des formateurs. Et là, le problème qui se pose, c'est que quand ils arrivent, on estime qu'il y a un besoin réel. Et ils sont allés se faire former pour pouvoir former ceux qui formeront désormais les jeunes sur le terrain. Mais est-ce que l'environnement leur permet réellement de former? Vous avez travaillé dans un environnement, je donne l'exemple de l'informatique, où vous arrivez, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous faire former. Les ordinateurs qui sont de pointe, vous avez la connexion qui est véritablement flexible et qui vous permet de mener des recherches. Vous avez une bibliothèque qui vous permet d'aller chercher
ce dont vous avez besoin pour vous former, est-ce que cet environnement-là est créé sur place pour permettre à ces gens-là de pouvoir continuer par étudier et par former les formateurs? Dans le domaine de la médecine, quand vous prenez par exemple un pays comme l'Allemagne, vous êtes médecin, vous avez fini votre cursus, vous avez commencé par travailler, après 5 ou 7 ans, vous êtes obligé d'aller vous faire former de nouveau pour être dans le bain, parce que la médecine évolue et il faut que les formateurs aussi évoluent. Et donc, ça veut dire que la formation est en adéquation avec l'emploi. Je peux donner aussi l'exemple du programme présidentiel qui permet de former des jeunes qui sont aptes à travailler directement dans les entreprises. Alors, de quelles entreprises s'agit-il? Parce que si votre formation vous permet, vous êtes allé par exemple aux États-Unis pour vous former dans l'aéronautique, qu'est-ce que vous venez faire ici concrètement s'il n'y a pas une structure qui peut vous employer directement sur le terrain? Là, il y a beaucoup de situations et moi je dis que la pratique déjà dans la formation est importante pour qu'on puisse avoir
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de patriotisme? Parce que je pose la question parce que, alors, c'est vrai qu'on voit, on retrouve même d'ailleurs ce complexe chez certains qui sont partis pour se faire former à l'extérieur. Et quand ils reviennent, alors, déjà, leur langage change. C'est pour dire chez nous aux États-Unis, peut-être parce qu'ils étaient partis se faire former aux États-Unis. Chez nous aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe, comme s'il a oublié qu'il était togolais.
Non, vous savez, je pense que ne faisons pas la margarine. Il faut scinder les choses en deux. Vous savez, la question que vous avez posée repose un grand problème de compréhension également. Parce que vous savez, je pense qu'il y avait eu 17 000 emplois répertoriés. Mais dans ces 17 000 emplois, il y a des emplois sous tension. Sous tension, ça veut dire il y a le besoin est là. Le besoin est là. Mais n'oubliez pas également que dans ces professions de tension, il y a également des gens qui obtiennent des bourses là-dedans. Ce n'est pas anodin. De toute évidence, lorsque vous prenez chacun suivant ses compétences, il y a ceux qui ont les bacs G2, G1, vous avez 16. C'est bien évidemment, sur les orientations données, vous ne pouvez pas peut-être faire le choix à raison de votre parcours, faire le choix des professions qui ne sont pas des professions sous tension. Donc vous revenez, c'est en cela, puisque je vais faire l'analyse sur deux plans, c'est en cela, lorsque vous revenez, vous êtes allé se faire former sur le budget de l'État, etc., vous revenez. De toutes les façons, lorsqu'il y a un besoin, on vous met en compétition avec ceux qui sont là à l'hôtel. C'est en cela que le professeur Kokouriko disait en son temps que nous ne formons pas ici pour le chômage. On ne peut pas nous dire que c'est parce que vous êtes allé se faire former. Or, ici, nous avons formé des mêmes compétences qui sont là où n'ont pas trouvé de l'emploi parce que vous êtes allé d'abord former sur le budget de l'État et c'est vous qui reviendrez encore vous emploi directement. Ça n'a pas de sens. Il faudrait quand même qu'on vous mette en compétition avec ceux qui sont sur le terrain. Et là, si vous êtes bon, vous pourvoyez donc à l'emploi. Mais le second aspect, c'est justement sur des professions qui ne sont pas sous tension. Exemple de ce que vous venez de dire, sur ceux qui ont été donc choisis pour être formés en Inde et revenir, c'est qu'il y a une spécificité. Nous prenons par exemple ce qui crée également des frustrations. Je pense qu'il y a un programme présidentiel où pratiquement les gens sont sérieux, voilà, ils sont directement employés dans les administrations. Même demain, nous avons des concours qui attendent. Donc, ça crée des frustrations. C'est vrai, lorsqu'ils sont bons, ils ont suivi des programmes présidentiels, etc. Mettez-les à compétition. Ils n'ont qu'à aller faire le même concours. S'ils sont bons, donc ils sont affectés, ce qui n'est pas fait. Donc, ça crée de la frustration au sein de la population. On ne peut pas comprendre. Mais justement, lorsque ceux qui sont allés former sur telle ou telle profession de tension, et lorsque vous trouvez de l'emploi, parce que lorsque vous venez, vous savez, de toutes les façons, on va vous mettre à compétition et d'ailleurs même peut-être payer à pièce civile. Et donc, vous désirez plutôt refaire le sérieux et faire valoir vos compétences. Là, il n'y a pas de problème. Et là également, je ne pense pas que l'État peut vous en vouloir. De toutes les façons, lorsque vous venez, ce n'est pas évident qu'on puisse employer toutes ces masses-là qui attendent. Donc, on ne va pas vous en vouloir. Mais au même moment, lorsque
vous êtes formé sur des spécificités normées, par exemple ce programme-là que vous citez, et on vous envoie pour aller acquérir des compétences, venir partager que vous restez là-bas. Je pense que là, il y a matière à polémique.
Justement, il y a matière à polémique. Il n'est même pas possible que vous restiez. Il n'est pas possible. Dès lors qu'on vous envoie, l'État, là, l'autorité qui vous a envoyé, c'est sur un programme précis. Et une fois fini, en accord avec la structure d'accueil, vous êtes obligé de revenir. C'est ça la responsabilité de l'État. Il faut que les autorités prennent la mesure de la chose. On ne peut pas partir et quitter sous la. Enfin, et mettre de côté l'autorité de son pays. Ce n'est pas possible. Donc l'État doit pouvoir avoir les moyens pour contraindre tout citoyen togolais si aller se faire former avec les moyens de l'État. Ça, c'est obligatoire. On a tous eu les moyens de l'État pour se faire former depuis le bas âge, arriver au niveau d'enseignement supérieur, ou du moins déjà quand vous avez le bac, ou au lycée, on a trouvé que vous êtes scellé tellement. Il y a eu un programme, vous vous êtes retrouvé à l'extérieur, et naturellement, il doit avoir tous les moyens pour que vous puissiez revenir. Si vraiment on a ce sens de développement, on sait vraiment où on veut aller.
Parce que l'État est
un normatif bien précis, hein, vous envoyez.
Non, c'est ce que je dis. Heureusement, avec le nouveau programme, j'estime que forcément, il doit avoir des moyens de contraindre pour que les compatriotes ouvriers reviennent.
D'accord, je sais.
Je pense que c'est toute une problématique. Donc, pour résoudre ce problème, on doit l'analyser et tenir compte d'un certain nombre de facteurs et qui sont des facteurs non négligeables. Les uns et les autres, on lui a le dit tout à l'heure. C'est sur quelle base on arrive à payer de bourses à ces étudiants-là.
Quelle est la vision?
C'est
la
politique connu, hein. C'est connu, non. La base d'octroi
de bourses. J'en connais beaucoup de choses. Et certains qui méritent d'avoir ces bourses, on voit dans quelles conditions ils ont été traités. Donc, on ne va pas polémiquer là-dessus aujourd'hui. Nous sommes au Togo, c'est comment ça se passe. Des relations que nous avons... Le militantisme passant par là, tu es toujours, c'est comment ça se passe. Si véritablement la règle est bien définie, et que lorsque quelqu'un est parti sur la base d'une bourse de l'État se faire former à l'extérieur, lorsque le principe est bien défini, obligatoirement la personne est censée revenir au pays et servir sa nation. Et surtout qu'en amont, il doit y avoir un canevas dans lequel ça doit se faire. Parce que vous êtes obligé de venir servir au moins pour une période donnée. Mais si ça n'a pas été le cas, et que la personne est partie, et dans les conditions que tu le montres aussi, peut-être qu'à un moment donné, il a eu à avoir des difficultés de l'autre côté pour continuer sur ses études, mais je crois qu'une fois terminé, ça lui serait difficile maintenant de revenir au pays pour servir la nation. Donc, je pense que c'est une problématique à laquelle il faut analyser et trouver des réponses idoines.
D'accord. Oui, Eric.
Moi, je voudrais aller sur un autre terrain. L'État ne forme pas forcément pour employer automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons que l'État-providence n'existe plus. Et l'État compte beaucoup plus sur le secteur privé. Alors, quels sont les besoins estimés par le secteur privé pour que l'État crée des filières au sens où le secteur privé va absorber cette main-d'œuvre-là? Je crois qu'il faut déjà commencer par là. Alors, vous demandez aux gens d'employer des nationaux au lieu d'aller chercher des gens sur l'extérieur. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui avec les sociétés comme Big Boss ou un Camerounais qui est arrivé avec un rang de directeur, avec un contrat et déterminé, et un Togolais qui est dans la boîte avant son arrivée avec un contrat indéterminé, c'est-à-dire un contrat sur le long terme, mais c'est celui qui a un contrat déterminé qui expulse carrément le Togolais. Comment est-ce que vous pourrez comprendre cela si l'État jouait finalement son rôle de contrôle, même dans les structures privées qui ne sont pas forcément des structures créées par des Togolais? On ne peut pas comprendre. Vous prenez l'histoire de ceux qui sont dans la société de motos électriques.
Récemment,
il y a, quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous avons besoin de main-d'œuvre. Très rapidement, l'État a demandé à ce qu'on crée une filière. Et par exemple, l'IFAD qu'on est en train de créer pour la technologie, les métiers,
l'agriculture,
choses d'artisans. Mais on a recruté des gens. Aujourd'hui, ils ont laissé près de 200 Togolais sur le carreau. Soit disant que c'est un problème économique, un problème de trésorerie, etc. Mais comment l'État n'a pas pu faire ce contrôle-là pour que ceux qui ont été formés puissent être véritablement employés d'accord. dans cette structure.
D'accord, merci beaucoup Eric. Je pense on va
arrêter le sujet. C'est vrai que c'est un sujet très intéressant. C'est sur la base de cette formation, oui. aller se faire former et revenir. On va pas quand même clôturer ce débat-là sans pourtant que je puisse avoir une pensée pour le docteur Nadou Yaovi. Un non-voyant, un handicapé visuel, vous le connaissez très bien, qui a fait ses études brillamment d'ailleurs, à l'extérieur, à Poitiers, où il a décroché un doctorat en droit constitutionnel. Et ce dernier, on lui a demandé maintenant de rentrer au pays pour servir la nation. Il est rentré, ça fait des années, il est là, il est à la crème. Je n'ai plus vu, je n'ai plus ses contacts, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais tous ceux-là qui lui font ombrage pour aller servir la nation, peut-être un simple enseignant de l'université du Bénin, se connaissent, ils sont dans la République. Ils sont ses supérieurs-là, je dirais même qu'ils sont proches même du chef de l'État. Donc c'est un problème réel. Moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est parce que c'est un non-voyant. Un handicapé visuel qui a fait...
Encore qu'il y a un programme spécifique sur les personnes.
Il est parti en France, à Poitiers, il a décroché son doctorat brillamment. C'est un constitutionnel, un juriste constitutionnel.
Et il revient au pays.
Il est là actuellement, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc vous voyez comment est-ce que les choses évoluent dans notre pays. Donc je pense qu'il va falloir véritablement penser à ces problèmes-là pour aider tant soit peu ceux-là qui sont en
difficulté. Juste un petit mot, puisqu'on est sur l'enseignement supérieur. Pour dire que, quelque part, des fois, il faut qu'on ait le courage, nous sommes dans la dénonciation, pour attirer l'attention aussi des autorités, et c'est pour cela que j'ai encore demandé la parole. Si vous prenez, par exemple, l'exemple de Temple du Savoir, l'Université Lomé, l'Université de Kara.
Oui.
Puisqu'on est dans cette logique-là, il faudrait que nos autorités universitaires comprennent que tout se fait dans un programme donné. Les gens qui sont professeurs d'université, professeurs titulaires, on vous confie peut-être un parcours. Je connais des petits frères qui sont en parcours master, qui peut-être, un master qui doit être fait au maximum en 2 ans, les gens traînent à 3 ans, et voire plus, et ils n'ont toujours pas soutenu. C'est aussi des choses comme ça qu'il faut dénoncer. C'est sur un programme, on tape peut-être quelqu'un, peut-être un de ses proches, qui coordonne, et malheureusement, les choses sont toujours à la traîne.
D'accord.
Donc, pour dire que c'est l'occasion aussi d'attirer les gens. En tout cas, félicitations à eux, parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des ouvrages de 2024, du mois de mars passé qui sort et qui est disponible à l'Université de Lomé, ce qui n'existait pas en tout cas quand moi j'avais encore le bac. D'accord. Je parle des années 2007.
Merci beaucoup Alain Legrand. Madame, on va aborder un autre sujet, c'est ce sujet du panafricanisme. On sait que déjà le Togo devait normalement organiser le 9e congrès panafricaniste ou panafricain. C'est déjà du 29 septembre au 2 octobre prochain, mais nous avons appris hier que ce congrès a été reporté et c'est le ministre professeur Robert Doucet qui a annoncé quand même le report de cet événement. C'est vrai que c'est un événement qui a été annoncé tambour battant sur les médias et tout. Mais moi, ce que je voudrais savoir, Adam, tout le monde a commencé par comprendre que l'État togolais est devenu panafricain. Quel est le projet?
Non, mais l'État togolais n'est pas devenu panafricain. Le panafricanisme existe depuis... que ce soit les opinions de nos dirigeants, notamment lorsque vous dites l'État togolais, c'est justement parce que le professeur Doucet s'est fait sienne une certaine ambition liée à la question qu'on tente à l'assimiler à l'État togolais. De toutes les façons, les opinions sont diverses en ce qui concerne le panafricain, qu'on soit au Togo ou ailleurs. C'est vrai que ces derniers temps, ça a été plus expressif. Donc beaucoup se sont levés. Je pense que derrière ça, c'est également... en tout cas, ce mépris exprimé par l'Occident il y a très longtemps, qui
qui a commencé déjà par avoir des revers. Et partant de là, je pense que le canal idéal pour pouvoir donc s'exprimer sur la question et dénoncer un certain nombre de travers qui a même continué, oui, c'était cette ambition, cet engouement, cette mobilisation derrière ce panafricanisme-là, je pense que quelque chose a commencé déjà par changer. En témoignant le fait, d'ailleurs, même que je pense que c'est en cela que ce pacte-là qui a été initié, disons, aux assemblées des assemblées générales a été fait. Moi, je me dis que c'est le cas, parce que quelque part, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui sont introduits sur la question, mais au même moment, je pense que c'est cet engagement, cette mobilisation africaine liée à ce mépris, cette condescendance, comme le dit le professeur Doucet, qui a amené à ce qu'on puisse avoir un autre regard sur l'Africain, sur les contrats africains, sur, en tout cas, la personnalité même de la personnalité de l'Africain. Et donc, je pense que ce soit vous, vous avez votre manière de s'exprimer sur la question. Ce n'est pas parce que, bon, vous ne criez pas que vous n'avez pas un penchant sur cette question-là. Donc, chacun, à un moment donné, s'est dit véritablement, donc, il faut quand même que nous reconnaissons nos acquis en ce qui concerne notre, en tout cas, notre identité africaine et l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais certains, c'est vrai, d'une manière ou d'une autre, l'expriment exagérément pour dénoncer un certain nombre de travers, mais d'autres également d'une manière douce, et c'est quand même de poser des jalons, ce qui a commencé déjà par changer quelque chose.
D'accord. Je sais, c'est vrai qu'on se souvient même d'ailleurs de ce discours du professeur Robert Doucet, justement lors de la 78e session des États, des Nations Unies, puisque la 79e se tient même actuellement à New York. Et c'est vrai, au cours de ce discours, vous avez si bien suivi le ministre Robert Doucet, qui disait que nous sommes fatigués. Il a insisté là-dessus. Alors finalement, est-ce que c'est aussi ça le panafricanisme?
Non, je ne le pense pas. Puisque nous autres, qui sommes des citoyens togolais, nous sommes fatigués de la gouvernance. Ça voudrait dire tout simplement que si aujourd'hui on annonce le report, c'est parce que les panafricanistes ont déserté. Ont déserté en ce sens que la manière dont ça a été annoncé tabou battant, on s'attendait à voir ces panafricanistes-là arriver au Togo, ou à défaut, tous ceux-là qui seront branchés sur les réseaux pour voir comment est-ce que ça va se dérouler. Mais moi, je pense que lorsqu'on parle du panafricanisme aujourd'hui, c'est une question d'état d'âme. On ne peut pas matérialiser son peuple et se réclamer d'être panafricaniste. Les valeurs qui sont des valeurs fondamentales et auxquelles on ne doit pas quand même tourner le dos lorsqu'on est africain, lorsqu'on est panafricain, c'est d'abord de penser à son peuple, de faire en sorte que tout ce qui appartient au continent africain, d'abord, revient aux Africains. Mais lorsqu'on fait la politique d'autruche, où on s'appuie sur l'Occident, et pour gouverner, et puis au même moment dire qu'on est panafricaniste, je pense que là, c'est un tout faux. Il faut analyser et revoir, c'est pas, revoir la copie, et lorsqu'il était question maintenant de se prononcer sur le panafricanisme en Afrique.
Ali Le Grand, c'est vrai que quand on parle du panafricanisme, aujourd'hui, c'est comme si les Africains eux-mêmes sont divisés sur la question. Il y a des engagés quelque part, et aussi de l'autre côté, on voit des gens quand même qui ont un langage modéré par rapport même d'ailleurs à cette question de panafricanisme. Est-ce que ça se comprend?
Oui, moi je dis ça se comprend. Nous sommes des humains. Sur ce plateau, sur un sujet, naturellement, on ne peut pas... C'est rare qu'on puisse avoir le même bord d'aborder le sujet.
Oui, mais les pères fondateurs, j'allais parler des pères fondateurs, même d'ailleurs de ce panafricanisme, on les a vus très engagés. Hein.
Oui, mais c'est des humains, hein, pour vous dire que c'est une nouvelle amorce, et naturellement, permettez que les approches soient divergentes. Et donc, dans cette dynamique-là aujourd'hui, pour des Africains et des Togolais, naturellement, qui ont pris l'engagement, ou du moins qui ont ce désir dans le sang de s'affirmer aujourd'hui, je pense que la voie est balisée pour que, naturellement, même si demain on ne va pas s'entendre à 100%, que la majorité soit d'un bord, de sorte qu'on puisse réclamer ensemble notre droit face à ceux-là que nous considérons toujours comme les profondeurs de nos droits, et qui, naturellement, nous piétinent et qui ne voudraient pas discuter d'égal à égal avec nous. Et donc, aujourd'hui, si on est divisé, ben, raison pour laquelle d'ailleurs il y a de ces genres de rencontres pour que davantage le dialogue puisse être intensifié. Et moi, je pense que, comme quelqu'un le dit, il n'y aura pas de vent pour toi, de direction de vent pour toi quand vous ne savez pas ce que vous voulez. Et donc, naturellement, aujourd'hui, les gens sont levés pour faire entendre leur voix, de sorte que d'un jour à l'autre, en tout cas ce qu'on était il y a 10 ans, il y a 20 ans, qu'on puisse quand même être loin de ce gouffre-là dans lequel on se trouvait.
Mmh. Eric, c'est vrai que quand on parle de panafricanisme, on pense à sa définition, c'est un mouvement qui permet l'unité africaine, qui nous amène à nous unir. Mais pour suivre cette question de l'unité africaine, on voit même des Africains, même des gens qui sont cherchés au sommet de l'Afrique et qui sont divisés sur un certain nombre de questions qui sont peut-être alors des questions d'intérêt commun pour l'Afrique. Est-ce que ça aussi, ça se comprend.
Existentielle,
bien sûr.
Alors, je voudrais d'abord dire que c'est vrai que le panafricanisme a été, à un moment donné, un mouvement d'ensemble qui tentait à unifier les peuples africains autochtones et de la diaspora. Mais je voudrais dire surtout que c'est une vision politique, économique, culturel, etc., en vue de l'émancipation des Africains où qu'ils se trouvent. Et de ce pas, je dis ce que vient de dire le chef de l'État à la tribune des Nations Unies hier, montre un certain panafricanisme. Quand il dit que quand vous voulez parler d'avenir, il faut vous tourner vers l'Afrique. Parce que l'Afrique est le continent
de demain.
Je crois que cette phrase-là a tout
son sens.
Et c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Partout où vous êtes, si vous êtes panafricaniste, c'est que vous devez d'abord parler de l'Afrique avant de parler de vous. Je crois qu'il a bien fait de parler de l'Afrique avant de sortir le petit Togo là du continent pour dire quand même que le Togo est prêt pour revoir cet ordre international dans lequel le monde entier, la planète entière est. Le panafricanisme, je crois que lorsqu'il y a des dissensions sur des questions existentielles, comme on venait de le dire, c'est parce que la vision des gens ne peut jamais être tournée dans le même sens. Il faudrait que l'on apporte quelque chose. De quelle manière pourrons-nous unifier les Africains, qu'ils soient sur place ou qu'ils soient de la diaspora. Quand on parle de la diaspora, c'est les pays d'Amérique latine, c'est des pays qui sont hors du continent, mais qui ont aussi participé quand même à la traite des nègres où les Africains ont été déportés et qui constituent aujourd'hui des sociétés qu'on appelle des sociétés africaines de la diaspora. Donc, je crois que fondamentalement, c'est une vision pour que nous puissions faire des Africains des gens émancipés.
D'accord. Nous avons une question.
Pour répondre à l'une des questions que vous avez posées liées au fait que les pères fondateurs du panafricanisme étaient unis, c'est que ce qu'il faut comprendre, les pères panafricains étaient unis en leur temps. Justement parce que ceux dont ils avaient orienté la lutte étant unitaire, nous parlons des indépendances, etc. C'était différent. Aujourd'hui, chacun est dans son conglomérat lié à une puissance donnée et à ses idéaux dont il réclame. Donc, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas être dans une dynamique unitaire.
Et puis, Pascal, si vous permettez, dans cette lutte-là, ça dit que moi, je trouve normal qui puisse avoir toutes ces petites divisions-là. Mais l'essentiel que nous tous souhaitons, c'est que la majorité puisse se retrouver dans ce que nous souhaitons, de sorte que les Africains puissent réclamer ce qui leur permettrait vraiment d'amorcer le décollage comme cela se doit. Quand vous suivez, ce n'est pas seulement en Afrique, vous suivez même en France, la dernière fois, l'Union européenne, la Commission européenne est totalement divisée face à la Chine quand il était question d'imposer les lois de douane par rapport aux voitures électriques
que produit la Chine. Vous savez qu'avec les questions d'environnement, de pollution aujourd'hui, pour cela, nous, même au Togo, quand vous avez un engin de voiture électrique, ou du moins si c'est des voitures neuves, vous êtes, les droits de douane vous reviennent beaucoup moins chers. Et donc, en Europe, la tendance était comme cela depuis quelques années. Mais malheureusement, la dernière fois, les pays sont totalement divisés face aux ministres chinois qui étaient obligés de faire des déplacements pour aller quand même donner un mot. C'était cette tension. D'accord. Donc, pour dire qu'il arrive des mois comme ça, c'est une question d'intérêt par moment. Et avec notre petite tête, quelqu'un se croit, pense plus à son intérêt immédiat. D'accord. Donc, ce qui fait que des fois, il y a des débats. Parler de panafricanisme, c'est une question de vision. Ça dépend de là où on veut aller. Ça dépend de là où on veut mettre le continent africain.
D'accord. Je voudrais savoir avec vous, pour qu'on termine avec ce sujet, c'est, nous allons nous rendre à Adakpamekuta Kolas. C'est vrai qu'il y a un problème de chefferie, un chefferie qui règne là-bas, où il y a deux chefs du quartier, même d'ailleurs, qui se réclament alors du trône, et qui, parce que c'est quand même monnaie courante, alors dans nos localités, surtout les localités les plus reculées, on trouve toujours ces problèmes. Aujourd'hui, il y a ce problème qui est là au niveau alors d'Adakpamekuta Kolas. Alors, je sais, c'est vrai que vous maîtrisez un peu le sujet. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Mais en fait, tel que vous venez de l'énoncer, c'est pas une question de deux chefs traditionnels ou coutumiers dans ce quartier. C'est vrai, de par le passé, Togui Komlan Agbati Ier a été officiellement reconnu comme chef traditionnel, chef coutumier dans ce quartier d'Adakpamekuta Kolas. Ça fait des années, plus de 20 ans durant, il a régné là. Et il est parti. Sa disparition peut-être a provoqué un peu de tollé. Comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'il se mourrait qu'en réalité, il n'était pas autochtone. Qu'il est allogène, il est venu payer le père de terre, le demi dans le quartier, et c'est par après que le père du chef canton actuel, Atou Adela Aklasou, qui par des archimies, lui a trouvé donc un décret, un arrêté de reconnaissance. Donc il a régné sur le quartier. Mais les autochtones, en son temps, ont voulu réagir, mais étant tous de la même communauté bé, donc les sages se sont intervenus dans ce dossier et que finalement, donc on a trouvé un terrain d'attente. Bon, traditionnellement, on attend, le chef est là, on ne peut pas le remplacer, on attend, peut-être que le jour où il va partir, on trouverait peut-être un terrain d'attente. Donc, malheureusement, paix à son âme, Togui Komlan Agbati Ier a quitté le monde. Le problème de la chefferie s'est encore posé. Donc, il était question maintenant de trouver un nouveau chef. Maintenant, faut-il le reconduire ou un autre, retrouver Agbati ou continuer comme Agbati II? Ou aller maintenant redonner donc la chefferie aux autochtones, notamment la famille Adikou, l'Akévi. Donc le débat a été mené, donc conciliabule a été trouvé, et ici et là, un moment où les parties sont entendues. Mais la seule fausse note est que le chef canton Adelan Aklasou Mauriel s'est invité dans le débat. Les informations ont circulé comme quoi il a promis à la famille Agbati que bon, ça sera également eux qui vont remplacer le défunt chef traditionnel. Alors qu'au même moment, ceux-là qui sont les autochtones, notamment les Lankli et Adikou, se sont également retrouvés et finalement, eux, ils ont désigné leurs représentants. Donc, la quête de moralité a été faite, on a mené tout et tout, on s'est rendu compte qu'en réalité, les autochtones sont les Lankli et Adikou. C'est d'où le 12 juillet 2024 dernier, pas arrêté municipal ou une décision de reconnaissance gouvernementale, et malgré tout ce qui s'est passé, on ne peut pas tout dire ici, le maire ministre Gomalo a remis l'arrêté ministériel au nouveau chef qui n'est autre que Togui Nadieville Kodjo Adikou Lankli Ier. Mais là, le problème qui est sur le terrain aujourd'hui est que on ne sait pas comment, par quelle chimie que ça a évolué, et Togui décide maintenant de partager le quartier en deux, aux grandes dames de ce n'est pas des autochtones, ce qui suscite vraiment de réactions, au point que les autorités ont voulu chercher à comprendre la voie de répondant. Donc ouais. C'est là où je dis qu'aujourd'hui, ce problème risque de troubler la paix sociale également au niveau du quartier d'Adakpamekuta Contas Solas, et qu'il est lieu à ce jour que le gouvernement puisse quand même intervenir. Et l'autre marche, l'autre volet de ce dossier,
rapidement,
oui, est que lorsque nous avons essayé d'approcher les sommités, les chefs de canton, enfin les chefs de quartier, coutumiers de la localité, ça ne s'est jamais produit. Donc, ils estiment que si ce dossier devait être posé aujourd'hui par la voix du chef de canton, c'est tout le canton qui devait être quand même mentionné, divisé. Et juridiquement parlant, ça n'existe pas dans les assurances juridiques du pays, avec tout ce que nous avons comme les principes ancestraux. On ne peut pas se lever en tant que chef de canton et se réclamant peut-être d'une formation politique, avoir ce qu'on a comme pouvoir et décider par tout coup de champ de partager ou de diviser un quartier en deux parties. Voilà ce qui se passe.
Mais, oui, quand on suit Justin dans son développement, tout ce qu'il nous a dit, on comprend tout simplement qu'avec cette question de chefferie, ça pourrait également entacher la cohésion sociale alors dans la localité.
Évidemment, mais je pense que les gens doivent être sincèrement raisonnables. Lorsque le problème s'est posé, les gens sont allés discuter entre eux, ils ont trouvé un compromis, je pense que l'affaire est close. Mais si on revient encore là-dessus parce que quelqu'un aurait promis à quelqu'un qui serait chef, alors toi-même à qui on a promis cela et à cause de toi on va diviser un quartier, est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu pourras diriger tes sujets? Parce que ce n'est pas une partie pour les Agbati, une partie pour les
Atikou. Atikou, oui.
Non, c'est-à-dire tout le monde est désormais mélangé. Comment le quartier va se diviser et qui seront, toi, tes sujets si les autres ne te reconnaissent pas comme tel. Je pense qu'il faudrait que l'on essaie de ne plus créer des problèmes là où il n'y en a pas. Les Togolais ont suffisamment des soucis de survie qu'il faut encore leur créer d'autres problèmes de chefferie et tout ça.
Alors finalement, tel que Eric l'a dit, c'est comme si le chef canton veut vraiment créer d'autres problèmes là où il n'en a pas.
Oui, bien évidemment, parce que vous savez, il fut un temps où ce problème-là était d'actualité partout ailleurs. Et je pense que le gouvernement a trouvé des formules. C'est ce qui a fait d'ailleurs, même, vous allez constater que dans certains chefferies, nous avons des litiges pratiquement qui durent longtemps. C'est justement prendre le temps. Ça, on peut pas, ce ne sont pas des nominations. C'est vrai qu'il y a des rites, c'est toute une histoire qui est derrière. Il faut remonter l'histoire et trouver, en tout cas, la réelle, appartenance de la chefferie. Donc cela évite un certain nombre de problèmes. Je pense que le gouvernement a mis tout ce qu'il faut. Et lorsqu'on finit les enquêtes, au-delà de la question politique qui se pose également dans ce genre de cas, je pense que la raison devait donc prévaloir et faire en sorte que le trône revient à qui de droit.
D'accord. Et Ali Le Grand, finalement, il est important quand même que l'autorité intervienne dans cette question pour qu'on trouve vraiment une solution rapide pour que la paix sociale ne reçoive pas un coup.
Oui, bien évidemment. Je pense que nos parents, nos frères aussi contribuent vraiment à induire le gouvernement en erreur. Vous savez, le processus de désignation d'un responsable des coutumes, c'est d'abord purement traditionnel. Et l'idée ne vient qu'en aval. Peut-être en amont, pour demander à ce que ce travail de fond, au niveau des politiques être faites. Si ce travail de fond, d'abord en amont, est fouté, c'est-à-dire qu'on dit un chef qui... le chef canton qui a réussi à faire introniser celui-là qu'on considère pourtant comme un étranger dans le milieu, qui n'est pas autochtone. Ça veut dire que la base est faussée. Et ça, c'est pas depuis des décennies. Je ne sais pas combien celui qui a décidé maintenant.
Le il a fait combien d'années aujourd'hui?
Voilà. Il a fait combien d'années avant de partir? Or, la succession au niveau de la chefferie, la succession, c'est que c'est les descendants qui prennent. Mais là, que lui aussi, il a duré pendant longtemps. Ça veut dire que ses enfants sont là. Et naturellement, on ne peut pas aussi les expulser comme ça. En tout cas, tout ce qu'on puisse demander, c'est que les sages qui étaient là à l'époque
beaucoup n'existent plus aujourd'hui, sont partis, ne sont plus de ce monde, mais ceux qui sont là quand même, qui puissent quand même trouver un terrain d'entente, même que cette situation puisse être faite sans...
Maintenant, lorsqu'on vient remettre
l'arrêté ministériel,
à un chef, c'est qu'il doit régner. Et aujourd'hui, ça veut dire que pour régner, il y a des rituels.
Tout à fait.
Et il y a également des reliques de ce trône-là qu'on doit transmettre à quelqu'un. Mais avec quoi maintenant le second chef
d'armée? Justement, celui qui a trouvé ce qui n'est pas de la lignée de celui-là qui a décidé.
On va revenir sur Romain, sur la question alors dans la semaine. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. Ils doivent aussi s'exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour la guérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous revenons dans ce studio pour vous recevoir. Nous ouvrons maintenant à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 pour s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur que nous avons, Al.
Oui. Allô.
Oui, bonjour Pélé.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Bon, je pense que je vais parler du report de la réunion qui devait se tenir au Togo.
Le 9e congrès panafricain.
Ah oui, le 9e congrès panafricain. Est-ce que c'est reporté?
Oui, c'est reporté.
Ok. On n'a pas donné la raison.
Oui.
Donc, si nous allons commencer bien faire la situation, on va dire que on sait dans ce pays en 2017 qu'il devait avoir la francophonie, le sommet de la francophonie et le sommet de l'Afrique d'Israël. Ça a été reporté grâce à quoi? Ce qui s'est passé le 19 août. Bon, tout ça là, quand on parle du panafricanisme, on voudrait savoir pourquoi c'est le Togo. Est-ce que le Togo est un pays panafricain? Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme même? Dans un pays où on a tout vendu, c'est-à-dire le port n'est pas vendu, nos hôtels, nos banques sont vendues, est-ce que c'est tout ça là? On veut parler de tout ça là. Donc, je pense que c'est un peu dans lequel on dit la paix, ce n'est pas un de cet autre comportement. Si on veut savoir sentir un panafricaniste, on le sent dans ses actes par rapport le comportement vers les occidentaux, comment le pays, vos pays sont dirigés, comment vous collaborez avec, ou bien vous gouvernez votre pays même par rapport à l'extérieur. Et donc, je peux dire que le panafricanisme, c'est une question de comportement. Et la question que moi je vous ai posée, est-ce qu'il y a cette. C'est la question que moi je
pose
souvent.
D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 90-86-35-35.
Allô? Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, heureusement.
D'accord.
Depuis le jour que vous m'avez invectivé.
Non, mais on ne vous a pas invectivé, Basile.
D'accord.
Allez-y, maintenant.
Ça, c'est pour les nous à la Togolaise.
D'accord, allez-y.
Bon. Panafricanisme, il n'y en a pas ici. Nous, Togolais, arrivés, nous sommes dans quoi nous sommes. N'est-ce pas, vous me disiez que quels sont ceux-là qui disent que le beurre est entièrement plein? Vous savez, je fais du passage, mes frères Eric et Adam. C'est eux qui voient toujours que le verre est entièrement plein chez nous ici au Togo. Quand la population chez nous, on a amené le gaz à 6 000. Quand le Burkina qui n'a pas une façade vis-à-vis de la mer, va ça à 2 000. Le ciment est d'emboté et puis vient de quelque part et dit qu'il va vendre ça à 66 000. Damien le Bédine Barouki lui a dit que non, ça ne peut pas arranger le Togo. On bat ça, il faut qu'on bat ça à 4 000. C'est ça que moi j'ai acheté pour travailler. si on a réduit au début, c'est parce qu'ils entendent nos cris de détresse. Bon, je vous ai déjà expliqué. Le jour-là, hier, j'ai tenté de rentrer dans l'église, mais je n'ai pas pu. Pourquoi est-ce que nous te connaissons? On ne peut pas dire au président que ce que vous nous faites là, ce n'est pas bon. Il faut nous faire comme les autres présidents. Pourquoi est-ce que nous, on va être là, on va venir sur les antennes, on va finir de ce que le président fait est bon.
Basile. Basile,
allô?
Oui, Basile, si, s'il te plaît, s'il te plaît. On a toujours donné la parole aux uns aux autres de s'exprimer sur des sujets débattus au Club de la Presse. Prenez le temps nécessaire de nous suivre et de parler de ce que nous avons dit au Club de la Presse. C'est très important, puisque ce que vous dites, allez, c'est vrai que ça court dans tous les sens. Alors, merci beaucoup, Basile. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez?
Bien, Eddie le coiffeur.
Oui, Eddie, comment ça va?
Ça va.
D'accord, allez-y.
Moi, je suis allé fatigué. Chaque temps, les mêmes trucs de chasserie là. Nous sommes fatigués de ça. Merci.
Merci, Eddy, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 75. Allez.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, monsieur Mahouto.
Monsieur Mahouto, allez-y.
Je salue le plateau. Ma question à monsieur Eric. Est-ce qu'il peut me donner les caractéristiques d'un parent africain? Parce que les valeurs que porte un parent africain. Parce que les clients togolais, moi, je ne vois pas qu'ils sont un panafricain. Parce que toutes choses, elles sont vendues au Togo. Même le porc a été vendu à Bolloré, par le président Paul, 350 millions, pendant 35 ans. Ceux qui se réclament de panafricains, notamment le président Burkinabé, le gars qui a moins de 3 000 francs là-bas. Tout ce qu'ils font dans l'intérêt de leur peuple. Donc, ils sont les panafricains. En quoi nous ce sont des panafricains?
D'accord, merci à vous aussi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame.
Allô, bonjour. Vous parlez du panafricanisme au Togo. Vous me faites rire, quoi. On me fait rire dans ce pays. L'Olympia a été quoi? C'est pas à cause de son panafricanisme, de son nationalisme. Il a été assassiné, c'est à cause de ça, non? Et maintenant, vous venez nous parler de ça. Pardon, on vient en terminer. Est-ce que vous êtes rapproché du président pour l'inviter? S'il ne veut pas venir là, demandez-lui quand est-ce qu'il veut alterner, quoi. C'est-à-dire, il doit passer la main. Pourquoi soit bien? Pourquoi on soit heureux? On aura tout gratuit, presque gratuit. Hein, les écoles seront privatisées, on aura des belles routes, on aura tout. Ils vont confisquer le pays, et ils en jouent seuls, sans développement. Mais on veut alterner simplement, c'est tout. Et puis je sais qu'on fera bien, même vous là-bas. Là. Vous verrez un budget de 2 milliards, vous pouvez 4 milliards, 5 milliards même la presse. Vous ne végétez pas comme ça, vous, hein? D'accord. Voilà, rapprochez-vous de lui.
Merci.
Et demandez-lui quand est-ce qu'il pense à fermer.
Ok, merci madame Issa.
Merci.
Merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Thomas, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur, je pense bien. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, comment vous allez? C'est Richard.
Bonjour,
oui, notre ami Richard depuis Copenhague.
Je salue le plateau. J'aimerais poser, vous avez parlé du panafricanisme. J'aimerais poser une question. Souvent, qu'est-ce que nous mettons dans panafrique? Du moment où nous n'avons même pas nos frontières, quand vous voulez aller chez votre voisin au Ghana, c'est la croix la dernière. Vous allez au Bénin. C'est tout un problème. Nous n'arrivons pas à avoir une monnaie commune. Nous n'avons pas le produit que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Et puis, notre manière de s'habiller. Nous parlons français. Ça ne nous appartient pas. Et je nous appartiens à l'Afrique. Vous réfléchissez. Merci.
Merci beaucoup, Richard, depuis Copenhague. Nous sommes toujours heureux quand nous savons que vous nous suivez toujours depuis Copenhague au Danemark. Alors, merci beaucoup. Je pense que Richard, c'est le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Adam, vous avez écouté les uns les autres votre réaction?
Non, bon, c'est vrai que les regards sont orientés sur la vision ou les opinions togolaises sur le panafricanisme. J'aimerais véritablement faire croire à nos auditeurs de ne toujours pas faire référence. C'est vrai que le passé a son histoire et les gens sont exprimés sur la question du panafricanisme. Nous sommes dans l'actualité et nous avons également des opinions liées au genre de panafricanisme qui est aujourd'hui exprimé partout. Donc, essayons de faire un effort, de dépassionner souvent les débats et surtout faire un effort également de ne pas faire des fixations sur aussi bien, en tout cas leur assertion sur la gouvernance qui est directement projetée sur une donne qui nous incombe aujourd'hui parce qu'il est de notre devoir de pouvoir mobiliser toutes ces énergies africaines pour réellement, parce que ça n'a pas toujours changé totalement, ça n'a pas changé. Cette condescendance envers l'Africain nous interpelle tous, parce que lorsqu'il suffit de sortir de nos pays, lorsque vous allez de l'autre côté, vous verrez en réalité qu'il y a du travail encore à faire. Donc, essayons véritablement d'avoir un regard sur ce travail-là que de se focaliser sur des aspects qui ne nous laissent pas avantage.
D'accord. Eric?
Faudrait-il encore répondre à ton ami Basile? Parce que je pense que c'est un monsieur, excusez-moi le terme, il est un peu borné, parce qu'il ne suit pas l'émission et il se jette dans les critiques qui ne sont pas du tout amicales. C'est-à-dire que il vient, il raconte... il n'est pas du tout courtois. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu borné. Parce que, franchement, la dernière fois, ce que tu lui as dit, et c'est très simple à comprendre. Il y a un sujet, les gens donnent leur avis. Quand tu prends le téléphone, donne ton avis tout simplement, au lieu de t'en prendre aux gens. Il dit que nous voyons toujours le verre plein. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel verre est plein? Je ne sais pas. Sur quel sujet? Je ne sais même pas. Mais il faut qu'il soit véritablement quelqu'un qui apporte quelque chose au débat. Parce que à chaque fois, s'en prendre aux gens, je suis sûr que ce monsieur, si on se mettait ensemble à deux, il ne va pas faire cinq minutes. Parce que tout ce qu'il va raconter n'aura aucun sens. Il faut qu'il comprenne que c'est un débat. Et pour faire un débat, apporte ton opinion pour permettre à l'autre de comprendre ta façon de comprendre le sujet. Il y a quelqu'un qui me demande les valeurs panafricaines. Je dis, c'est pas que je ne peux pas lui dire, lui étaler, quoi que ce soit, mais c'est par rapport au temps. Je voudrais juste lui dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un protectionnisme avéré qui est en train de plomber même le sens que les pères ont donné au panafricanisme. Et je crois que quand on parle de panafricanisme, c'est aider les peuples africains à s'émanciper. S'émanciper, ça veut dire qu'il faut leur apporter tout ce qu'il faut. Oui, quand on dit qu'il y a une mauvaise gouvernance quelque part, ce n'est pas pour aider les Africains à s'émanciper. Quand on dit qu'il y a la tyrannie quelque part, c'est vrai, ça ne permet pas au peuple de s'épanouir. Et donc, je crois que il est en train de dire, de ressortir ce qu'il ressent en lui et qui, franchement, ne permettent pas que le panafricanisme soit véritablement cette vision politique, économique, sociale, culturelle qui est partagée.
Merci beaucoup, Eric. Ali Legrand.
Oui, je voudrais dire de manière avancée à tout un chacun que dans les interventions de nos parents, de nos frères et sœurs, on sent cette frustration dans les propos de plusieurs d'entre eux, que
de telles occasions, des émissions de ce genre, c'est l'occasion aussi pour nous qui sommes là et les auditeurs, auditrices, de profiter pour faire des propositions concrètes aux dirigeants. Vous savez, ce n'est pas avec les frustrations qu'on va construire le pays. Nous ne disons pas que tout ce qui est fait au Togo est bon. Au contraire, nous critiquons aussi. Mais quand sur un point c'est bon, il faudrait aussi le soulever et encourager ceux-là qui sont là. C'est des humains et naturellement, ils sont limités aussi. Et c'est l'occasion qui retrouve l'éclairage à travers des critiques ou des propositions. D'accord. Et que vaut mieux que des propositions viennent.
Merci beaucoup, Ali Le Grand. Oui, Justin.
Oui, bon, sur le panafricanisme, je crois que je n'arrive pas à élire démocratiquement leurs dirigeants. Le problème du panafricanisme, je crois que c'est vos pieux. Ça serait difficile d'avancer le développement. Mais là, sur l'autre volet, la question...
Je sens, c'est comme si on ne t'entend pas, on ne t'écoute pas. Si tu peux te déplacer un tout petit peu pour aller vers aller le grand, ce serait bien. Voilà, pour le dire. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Tu peux facilement.
C'est une question technique qui se pose là. Donc je disais, si vous le permettez, que sur la question du panafricanisme, il est difficile aujourd'hui de parler du panafricanisme en Afrique, surtout quand vous écoutez notre ami de l'autre côté qui a appelé en Europe, lorsqu'on n'a pas la monnaie commune, lorsque nous n'avons pas la libre circulation des biens et des personnes au niveau des frontières, tout ce qui peut apporter le développement, on n'en a pas. Je pense que parler du panafricanisme, c'est un vœu pieux. Mais sur l'autre débat qui concerne le quartier d'Adakpamé, et moi je pense qu'en tant que journaliste, on analyse, on critique. Ce qui se passe là, ça sent mauvais. D'accord. C'est le lieu d'interpeller les autorités à intervenir dans ce dossier-là.
D'accord.
Pour que Tegui, Adela, Klasou, Maoko, lui, puisse attendre raison. Parce qu'on a tellement attendu beaucoup de choses sur lui. Et on n'en a pas entendu autant sur l'autre Tegui qui est Tegui Adjalé, chef supérieur de la ville de Lobo.
D'accord. Merci beaucoup, Justin Anani, d'être passé dans cette émission. Allez, le grand merci à toi, Eric Jason, merci. Adam Andrenou, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez appelés aussi, merci à vous. Thomas était d'Atelier assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dacoutia. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Le plaisir pour la guérir, écoutez Canal FM 93.5.